Évangile de Luc au chapitre 2, parce que eh bien, ce second chapitre de l'évangile de Luc relate les événements entourant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est bien pour cela que nous sommes réunis ce matin avec ce programme spécial qui vous a été présenté. Nous sommes reconnaissants pour toute la participation des uns et des autres. Mais voilà, cet événement historique. Eh bien, nous est rapporté dans cet évangile de Luc. Et nous allons porter notre attention ce matin, notamment les versets 8 à 14, mais plus particulièrement le verset 14. Donc, Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alors c'est sûr que lorsqu'on pose la question aux gens concernant Noël, quelles sont les choses qui passent à leur esprit quand on mentionne cela, beaucoup vont parler bien sûr des festivités, de temps en famille, beaucoup vont parler aussi bon, de la joie de Noël ou de la paix de Noël. Hein, la paix de Noël est le thème que nous allons aborder ce matin à travers ce passage de l'évangile de Luc, mais aussi nous regarderons à d'autres versets dans les Écritures. Mais s'il y a bien vraiment une notion qui est attachée à Noël, c'est bien cette idée de joie et de paix. C'est ce que nous retrouvons dans ce passage, n'est-ce pas? L'annonce de l'ange au berger, c'est quoi? C'est le sujet d'une grande joie. Et les anges ensuite qui se joignent à lui pour louer Dieu et qui proclament gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Paix sur la terre. C'est bien quelque chose que je crois que tout être humain recherche, la paix. Mais la réalité de notre monde est tout autre, n'est-ce pas? Même si beaucoup ont cet espoir, cette espérance, ah là, c'est Noël, on veut un peu de paix, on veut un peu d'espoir, on veut un peu cette lumière. Et quelque part, c'est pour eux une ambiance, une atmosphère de joie et de paix qu'ils recherchent. Mais l'humanité, si avide de paix, justement, échoue continuellement à obtenir cette paix. Et on constate une multiplication de toutes sortes de conflits à tous les niveaux de la société, n'est-ce pas? Les atroces guerres entre les nations, entre les peuples, ne semblent cesser malgré les idéaux des Nations Unies. On en parlait un petit peu dans la voiture en venant, mais ça fait maintenant 75 ans, ça fait depuis 1948 par exemple, qu'en Birmanie, c'est la guerre civile. Imaginez cela, 75 ans de guerre civile. Bien sûr, la situation en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, préoccupe le monde entier. Et quand on analyse les choses, quand on regarde à l'histoire, force est de constater que notre monde a connu conflits et guerres de manière quasi continuelle. En fait, quelqu'un s'est amusé à calculer et à estimer que le monde n'a été entièrement en paix que seulement 8% de son temps. 8%. Il n'y a pas eu vraiment un endroit où il n'y a pas eu de conflit comme ça entre peuples, entre nations. On constate également que les idéaux de la démocratie sont piétinés par ceux-mêmes qui sont supposés la représenter. Et on voit des politiciens s'agresser les uns les autres verbalement. Parfois, on les voit même dans certains pays s'en prendre physiquement l'un à l'autre. Bien sûr, les tensions sur les lieux de travail, les bagarres même entre voisins font de plus en plus leur apparition dans les faits divers. On constate de plus en plus de couples qui se déchirent égoïstement, qui déchirent leur famille, qui conduisent souvent aussi à de très terribles tragédies. Entre, par exemple, 2021 et 2022, les violences conjugales ont augmenté de 15%. Et la Somme est l'un des départements où il y en a eu le plus. Bien sûr, on voit à tous les niveaux que la paix n'est pas là. On voit même dans les lieux où on se dit ça devrait être tranquille, mais ça ne l'est pas. Hein, les harceleurs dans les écoles, sur les réseaux sociaux, hein, qui, par leurs propos vils et acerbes, poussent leurs victimes à l'irréparable. Cette sombre réalité amènerait certainement quiconque à se demander si, effectivement, est-ce qu'on peut vraiment avoir la paix? Ou est-ce que c'est vraiment juste une utopie? Est-il vraiment possible de connaître cette paix-là? Et pourtant, aussi sombre ce monde soit-il, la lumière qui est venue dans le monde à Bethléem il y a quelques 2000 ans de cela, cette lumière, elle brille toujours. Et ce n'est pas juste une petite lueur, lumière d'espoir de paix. Cette lumière, elle brille pour mener vers la paix qui est réelle, la paix qui est véritable. Cette lumière, pour ceux qui ont déjà lu l'évangile de Jean, Jean nous le rappelle dans son premier chapitre, cette lumière, elle est la véritable lumière qui est venue dans ce monde, qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, nous dit Jean. Et le monde ne l'a point connue. Pire encore, cette lumière, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Il nous dit également à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dont nous célébrons la naissance en cette période. Et le message de l'évangile, le message même de Noël, c'est que Christ est venu dans ce monde pour que ce monde puisse être réconcilié avec Dieu, pour que ce monde puisse connaître la véritable paix. Quand on relit la proclamation de ces anges, hein, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas juste une noble aspiration ou un doux rêve utopique, un espoir. Non. C'est la réalité dont nous célébrons aujourd'hui et pendant ce mois la naissance de cette lumière de Jésus-Christ. Cette paix, elle est unique. Cette paix, elle est différente de ce que nous, on peut même s'imaginer que la paix doit être. D'ailleurs, on ne comprend pas cette paix que Dieu nous offre. L'apôtre Paul nous dit également dans son épître aux Philippiens que la paix de Dieu, elle surpasse tout entendement. Ça surpasse toute logique. C'est incompréhensible, cette paix que Dieu met à notre disposition. C'est incompréhensible pour beaucoup de voir des chrétiens qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les douleurs, sont dans une paix qu'on ne comprend pas, une paix qui est unique. Et c'est cette paix-là dont je veux parler ce matin. Que nous, déjà en tant que chrétiens, nous puissions proclamer cette paix autour de nous, mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Christ comme sauveur de leur vie. Cette paix, elle est toujours disponible. La première chose que nous devons réaliser quand nous regardons au message de la parole de Dieu, c'est que cette véritable paix ne peut venir que de Dieu lui-même. Elle ne peut venir que de lui. Qu'est-ce que j'entends par véritable paix? Eh bien, au-delà de tous les conflits que on a mentionnés précédemment, il y a un conflit qui surpasse tous les conflits. Il y a un conflit dont, eh bien, les conséquences sont les plus désastreuses. Et ce conflit, c'est celui de l'humanité avec Dieu. C'est la cause de tous les autres conflits que nous connaissons. La Bible nous montre que lorsque l'homme, lorsque l'être humain a péché contre Dieu et que le péché est entré dans le monde, la mort est venue dans le monde. Mais avec cela aussi, eh bien, notre façon d'agir, de penser, a été complètement détruite par le péché, si bien que ce qui nous anime naturellement en tant qu'être humain, eh bien, c'est de faire le mal. Ça, c'est le message de la parole de Dieu. Nous sommes responsables nous-mêmes de notre propre péché. Nous sommes coupables envers Dieu de ce que, eh bien, nous avons désobéi à sa volonté. Et donc, il y a ce conflit. Un conflit, comme j'ai dit, dont les conséquences sont bien plus désastreuses que même tous les conflits de cette terre réunis ensemble. Parce que ce conflit, pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, a des conséquences éternelles. En choisissant le péché, nous nous sommes positionnés comme ennemis de Dieu. Et de ce fait, nous sommes privés même de sa présence, privés de ce qu'il a prévu pour nous à l'origine. Lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, lorsqu'il créa Adam et Ève, son objectif n'était pas pour eux qu'ils désobéissent et qu'ils entrent dans le péché et qu'ils fassent entrer le péché dans le monde avec toute la corruption. Non. L'objectif de Dieu était un objectif d'élever cet homme, cette femme, à une connaissance de lui-même bien plus grande. Mais voilà, le péché, on ne peut pas revenir en arrière. Hein, même si il y a beaucoup de films qui parlent de, allez, remonte le temps, on va essayer de changer les choses, etc. On ne peut pas faire cela. On ne peut pas retourner en arrière et corriger ce qui a été fait. Mais comme la Bible nous le dit, en Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne ici présente qui peut dire « je n'ai jamais péché ». C'est une illusion et c'est un mensonge. Nous sommes tous dans cette catégorie de pécheurs et à cause de cela, ennemis de Dieu, ou comme la parole nous en parle, comme des enfants de colère. Quand on considère ce conflit avec des conséquences qui sont, on va dire, humainement insolvables, je ne peux pas arrêter la mort. Je ne peux pas arrêter les effets du péché moi-même. Je ne peux pas faire quoi que ce soit, même pour enlever la culpabilité qui est sur moi. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation si problématique pour laquelle toutes vos tentatives ont été vaines? Cette semaine, nous, on a eu le Kangoo qui est tombé en panne. Et alors, j'ai essayé et essayé de faire redémarrer cette voiture. Mais ça a été en vain. Hein, c'est quasiment, on arrive, bon, là, maintenant, faut attendre, faudra l'amener peut-être à un garage et voir ce qu'ils peuvent en faire. Mais d'autres situations qui échappent à notre contrôle, qui, malgré tous nos efforts et nos tentatives, ne changent rien à notre situation. Le sentiment que l'on a quand on est dans cette situation-là est terrible. Ce sentiment d'impuissance, d'incapacité. Mais à cause de notre péché, de notre rébellion, nous sommes exactement dans cette position-là vis-à-vis de Dieu. On pourra essayer de faire toutes sortes de bonnes œuvres, on n'y arrivera pas. Quelqu'un même a illustré une fois cette idée-là en parlant de ces fameux mâts de cocagne qu'on avait autrefois, auxquels on attachait des prix, des récompenses, et plusieurs essayaient de grimper pour essayer de détacher le gros lot. Mais il a dit, imaginez un mât comme celui-là, mais sur lequel on a recouvert de l'huile, de la graisse. Et essayez de grimper à ce mât. Vous pourrez essayer et essayer et essayer, vous n'y parviendrez pas. Et les efforts de l'être humain pour avoir la paix avec Dieu, c'est exactement cela. On n'y peut rien. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue que cela. D'un point de vue humain, il n'y a pas d'autre issue. Non seulement la mort physique est entrée dans le monde, mais il y a également cette mort spirituelle dont nous parle la parole de Dieu. Quand Dieu avait averti Adam et Ève de ne pas prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal, il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont obtenu cette connaissance du bien et du mal, mais ils ont fait entrer l'humanité dans une condamnation éternelle. Une condamnation physique, celle de la mort, mais une condamnation spirituelle, celle de la mort spirituelle, c'est-à-dire que plus moyen pour l'être humain d'être dans la présence de Dieu. Comment est-ce que l'être humain pourrait être l'instigateur de la paix avec Dieu? C'est impossible. La paix avec Dieu ne peut venir que de Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Et il y a une raison pour laquelle ça ne peut pas venir de nous. Paul nous dit que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce que Paul nous dit, c'est que vous pouvez chercher à accomplir toutes sortes de bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui va garantir la réconciliation avec Dieu. Tout ce que nous pourrions accomplir ne saurait effacer cette longue liste de chefs d'accusation qui est contre nous. Oh, on peut se dire, mais moi, je n'ai pas commis de meurtre, je n'ai jamais volé quelqu'un. Mais le fait est que, même si on a volé une fois, une pièce, un bonbon, quelque chose qui ne nous appartenait pas, ça fait de nous un voleur. Et ça nous rend coupables. Christ est venu dans ce monde pour annoncer ce message que Dieu est le seul à pouvoir donner cette paix et accorder cette paix. Il y a un passage du prophète Ésaïe qui a prophétisé des siècles avant la naissance de Christ. Il déclare ceci en Ésaïe chapitre 2, verset 4, en parlant du Messie. « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Et il est dit ici, « De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Alors ça, c'est un passage prophétique par rapport à ce qui est encore à venir. Parce que oui, depuis que Christ est venu il y a 2000 ans, est-ce qu'il y a eu la paix sur terre? Non. Est-ce que nous produisons des outils plus que nous produisons d'armes? Non. Nos pays développés, nous sommes constamment en train de produire toujours plus d'armes. Pour la petite histoire, et je trouve ça quelque part un peu ironique, mais ce passage d'Ésaïe a inspiré un sculpteur soviétique qui, dans les années 50, je crois 1959, a offert aux Nations Unies une œuvre d'art, une sculpture représentant la figure d'un homme tenant un marteau en l'air et d'une main une épée dans l'autre, et il martèle sur l'épée pour en faire un soc de charrue, un outil qui est utilisé pour labourer la terre, pour les cultures. Et ainsi, il voulait symboliser le désir de l'être humain de mettre fin à la guerre, de transformer les outils de destruction en outils au profit de l'humanité. Je trouve ça assez ironique. En connaissant ce que déjà l'Union soviétique a produit comme conflit, mais que ce lieu même où les hommes cherchent à établir la paix dans le monde, déjà ils utilisent un passage biblique, mais ils refusent de voir la source réelle de la paix. Ils continuent de chercher dans tous les sens la paix. Plus loin, au chapitre 9, Ésaïe nous dit ceci par rapport au Messie. Et on connaît et on chante ce verset-là. Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et notez bien, prince de la paix. Prince de la paix. Dans toutes les guerres humaines, jamais le pays agressé a été celui qui a payé pour les réparations causées par l'agresseur. Hein, pour ceux qui ont étudié l'histoire, le traité de Versailles, hein, la France, les Alliés, on a bien martelé l'Allemagne, on leur a bien fait payer tout ce qu'ils ont détruit. Mais jamais on a vu un pays dire, c'est pas grave, je prends tout en charge. Et pourtant, ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes les agresseurs, nous sommes les coupables. Mais Dieu est celui qui non seulement apporte la paix, mais qui a payé pour cette paix. Et cette paix, elle est en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16, nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le prince de paix. Il est l'enfant qui est né pour amener cette paix. Il est le Dieu de paix. Et c'est pour cela qu'il est le seul ayant la capacité de produire et de donner cette paix à l'humanité. Alors, question bref, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment cette véritable paix peut-elle s'obtenir? Bien, la Bible nous montre clairement et simplement, que cette paix, elle s'obtient, elle s'accepte par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici, hein, d'une paix qui vient de l'homme, mais d'une paix qui vient de Dieu. La raison pour laquelle cette scénette a été présentée pour montrer que, eh bien, le but ultime de la venue de Christ, dont la naissance nous célébrons ce mois-ci, le but de cela a été la crucifixion, a été le fait que Christ donne sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Aucun autre homme pouvait faire cela. La raison pour laquelle Christ, pour laquelle Dieu est venu et devenu homme, c'est pour réconcilier les deux. Et en étant Dieu, en étant parfait, il n'y a aucun péché en lui. Et donc il était le seul pouvoir représenter cette humanité pécheresse, coupable, et de pouvoir s'offrir en sacrifice pour effacer nos péchés. Le seul. Il y a plusieurs décennies de cela, en 1973, un homme qui habitait en République dominicaine a voulu faire une sorte de coup d'éclat pour essayer d'amener les gens à réfléchir à la paix et faire quelque chose où les reporters et les journalistes en parleraient. Et cet homme a décidé de se faire crucifier. Il s'est laissé clouer sur une croix. Et il a dit, je fais cela en sacrifice pour la paix mondiale et la compréhension entre les hommes. Tels étaient ses propos. Et alors que des milliers de personnes regardaient la télévision, des clous en acier inoxydable de 6 pouces, il hein, faut dire, demander à votre frère Abed de calculer cela, mais des grands clous, hein, qui étaient enfoncés dans ses mains et ses pieds. Cet homme, il avait prévu de rester là pendant 48 heures, cloué sur cette croix. Il aura tenu 20 heures. 20 heures où il a souffert, où il a contracté une infection à son pied et il a dû être retiré de cette croix. La réaction de ces journalistes, un de ces journaux qui a couvert l'événement, avait pour titre « La crucifixion pour la paix n'a pas été à la hauteur ». Pourquoi? Parce que, évidemment, ça n'a rien changé. Encore une fois, la paix ne peut pas venir de nous. Elle ne peut venir que de Dieu. Même si son geste partait d'une bonne volonté, celle d'attirer l'attention du monde vers la paix, ça illustre bien la vanité et notre incapacité de faire changer quoi que ce soit. C'est par la grâce que nous obtenons cette paix. Par le moyen de la foi, nous dit Paul. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On ne pourra rien changer à quoi que ce soit. C'est pour ça que nous devons nous tourner vers Dieu. Comme j'ai dit, seul Christ a le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu. Et cette puissance, elle a été démontrée. Elle a été démontrée par sa mort. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5 au verset 8. Déjà que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire que même pas dignes d'être aimés, Christ est mort pour nous. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 18, nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour qui? Pour les injustes. Pour quel objectif? Pour nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Seul Christ a le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu, parce que cette puissance, elle a été démontrée également par sa résurrection. Toujours Paul, dans cet épître aux Romains au chapitre 5 et verset 10, nous dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce que nous célébrons à Pâques, il n'y a pas que la crucifixion de Christ. Il y a sa victoire sur la mort et sur le péché. Et c'est cela qui nous donne d'avoir la foi en lui pour le pardon de nos péchés. Et il était le seul à pouvoir accomplir cela. Dans une autre épître, Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19, il nous dit ce qui se produit dans la vie d'une personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par le passé s'est effacé. On parle d'une nouvelle vie. On parle de quelque chose qui est impossible à l'homme d'accomplir. Dieu le fait. Et il continue en disant, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné ce ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et voilà pourquoi nous aussi, nous nous réunissons pour nous encourager, mais nous voulons également partager ce message de l'Évangile, cette victoire sur le péché, cette victoire sur la mort, cette véritable paix. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une dette si grande, si colossale, que je ne vois pas comment je vais m'en sortir? Et d'avoir cette dette complètement effacée par la générosité de quelqu'un. Quand cela arrive, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un des plus grands soulagements qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Parce que tant qu'on a cette dette, on est inquiet, on se dit « mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour... Je peux travailler là, mais je ne gagnerai jamais assez, je ne vais pas pouvoir régler cette dette à temps. » Et quelqu'un paye cette dette complètement. Et ce fardeau qui était sur vous est complètement enlevé. Ce que vous deviez n'existe plus. Ça, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il enlève ce fardeau du péché. Et nous soulage de ce fardeau. Mais pour cela, la clé pour chacun d'entre nous, et c'est Dieu qui a décrété cela, que c'est par là. Foi. Pas la foi en nous-mêmes, dans ce que nous sommes capables de faire, mais la foi en Christ. Lorsque Christ guérissait des malades, des infirmes, souvent il donnait la raison pour laquelle aussi il guérissait Dans Marc chapitre 5, lorsqu'il a guéri la petite fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Le lien qui est établi ici entre la foi et la paix. La foi qui a amené la réconciliation avec Dieu, qui a amené le salut et qui donne cette paix. Sans la foi, c'est impossible. C'est même impossible d'être agréable à Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut pour, ah Dieu, je vais faire ça pour toi, je vais faire accomplir tout ça. Et s'il n'y a pas la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce message de l'Évangile, c'est que bien que nous soyons les coupables, bien que nous soyons rebelles, Dieu nous aime. Bien que nous lui crachions à la figure, Dieu est prêt à nous pardonner. Bien même que nous ne le recherchions pas, il est venu à notre recherche. C'est lui qui a envoyé son fils. C'est lui qui a pourvu le Messie. C'est lui qui a pourvu le sacrifice ultime et parfait pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Bien que nous soyons coupables, Dieu est celui qui a payé pour que nous puissions avoir la paix avec lui. Alors bien sûr, certains vont dire, mais voilà, moi ce que je recherche, c'est avoir la paix dans ma vie, avoir ce sentiment que tout va bien, d'avoir cette sérénité. Mais je vois des chrétiens perdre leur emploi. Je vois des chrétiens tomber dans la maladie. Je vois des chrétiens dans la pauvreté. Et vous me dites que venir à Dieu donne la paix? Alors je crois qu'il faut faire une belle dissociation ici. Il y a ce qu'on pourrait appeler une paix légale, n'est-ce pas? La paix légale, c'est la dette qu'on avait à la banque, elle est payée, la banque vous signe le papier, c'est bon, vous ne devez plus rien, je sais que j'ai la paix. Mais après, avoir ce sentiment de paix ne vient pas forcément tout de suite, n'est-ce pas? Après la Seconde Guerre mondiale, quand la paix a été conclue, elle a été signée, elle a été actée, il y a beau avoir cette paix légale, ça n'a pas ôté les effets de la guerre, ça n'a pas ôté les blessures, ça n'a pas ôté les souffrances dans les familles, ça n'a pas réparé tout magiquement dans la vie. Il y a eu une longue période de reconstruction. Et même dans la mentalité des gens, dans la façon de voir celui qui était notre ennemi autrefois. On a toujours cette rengaine quelque part. Mais cette paix légale, c'est ce qui va être la source ensuite de cette paix de l'âme. Et peu importe la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu nous dit, vous pouvez avoir cette paix. Lorsque le Seigneur Jésus a annoncé les choses à venir à ses disciples, et il cherche à les encourager, il leur dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est une certitude. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que Christ y dit ici? Il nous dit, je ne vais pas enlever toutes les épreuves et les difficultés. Ce que je vous donne, c'est cette sérénité, cette paix, quoi qu'il arrive. De ce que je vous ai sauvé, vous serez avec moi dans mon paradis. Et rien de ce qui se passera dans ce monde n'y changera quoi que ce soit. Et donc ce n'est pas l'absence de problèmes qui procure aux chrétiens cette paix dans sa vie, mais c'est le fait qu'il s'appuie sur la victoire de Christ et sur la promesse à venir. Ça, c'est ce qui donne la paix. Mieux encore, cette paix, nous la cultivons en Christ. Notez bien que cette paix, elle est en Christ. Il a dit, afin que vous ayez la paix en moi. Et cette victoire que Dieu accorde, cette paix que Dieu accorde, c'est le fondement pour tout le reste. Est-ce qu'il nous arrive d'être triste en tant que chrétien? Oui. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir des difficultés en tant que chrétien? Oui. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir des moments où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous et que il n'y a pas de paix dans notre vie? Oui. Mais c'est aussi pour cela que Dieu nous rappelle dans sa parole ce qu'il nous faut faire. Paul, il nous dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours en qui? Dans le Seigneur. Il est la source de la joie. Je le répète, parce qu'on n'a peut-être pas assez entendu. C'est ce que Paul y dit, hein. Je le répète, réjouissez-vous. Il nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et notez bien le verset 7 ici. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder à toutes les choses qui s'effondrent, nous regardons à la paix, Christ. Et il nous donne cette paix. Et Paul continue en encourageant les chrétiens à poursuivre tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, que tout cela soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire que nous avons des efforts à fournir. Maintenant que nous avons cette paix avec Dieu, rien ne va l'enlever. Mais nous avons des efforts à fournir pour que nous maintenions, non pas une illusion, mais que nous maintenions l'effet que Dieu produit dans le cœur de ceux qui placent leur foi en lui. Il dit, toutes ces choses, que cela soit l'objet de vos pensées. Il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et voilà la promesse qui vient avec. Et le Dieu de paix sera avec vous. Lorsque nous sommes attachés à vivre comme Christ a vécu, à suivre son enseignement, à manifester l'amour, la grâce et le pardon. Et c'est bien là ce qui manque à ce monde. C'est qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas la grâce de Dieu, ils ne connaissent pas le pardon de Dieu, et ils sont incapables de manifester cela envers les autres. Un couple, on dit un couple s'aime, c'est pour ça qu'ils s'unissent. Et pourtant, on est déjà à plus de 45%, je pense, de taux de divorce en France. Où est donc passé cet amour? Voilà pourquoi nous nous attachons à Dieu. Hein, c'est un verset dans Job qui avait retenu mon attention là-dessus aussi. Dans Job 22, il dit au verset 21, attache-toi donc à Dieu, et quoi? Et tu auras la paix. C'est-à-dire que non seulement nous devons accepter cette grâce de Dieu, placer notre foi en lui, à nous repentir de nos péchés pour être pardonnés et avoir cette paix, mais ensuite, il faut s'attacher à lui. Et l'image qui me vient à l'esprit, c'est quoi? L'image, c'est celui d'un gamin, peut-être qui a fait une bêtise, ou peut-être qui s'est blessé, et qui va courir vers son père pour chercher la consolation ou chercher le pardon. Et l'image que je vois, c'est ce petit enfant qui agrippe la jambe de son papa, ou qui s'accroche à son cou, et qui ne veut plus le lâcher. Attachez-vous donc à Dieu. Et vous aurez la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, nous dit ce verset. Et lorsque nous vivons ainsi, lorsque nous vivons selon ce que Dieu nous demande, non pas qu'il agit en punissant ceux qui désobéissent, c'est pas ça. Il est en train d'aider et de donner ses bénédictions à ceux qui font ce qu'il demande, tout simplement. Mais il dit que cette paix, cette sérénité, bien c'est son œuvre aussi dans notre vie. Dans Galates chapitre 5 et verset 22, beaucoup connaissent bien ce passage où on parle du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et l'œuvre du Saint-Esprit, elle se produit quand le croyant, justement, bien, il se soumet à la volonté de Dieu. Lorsque le croyant est en train de vivre selon les principes que Dieu nous montre clairement dans sa parole, et il nous dit que, voilà, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, et ensuite la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et même la maîtrise de soi. Toutes ces choses qui sont tellement nécessaires pour régler les conflits qui existent dans notre vie, n'est-ce pas? On en revient à cela. On en revient que pour avoir la paix, on ne peut que se tourner vers Dieu. Déjà, avoir la paix avec lui, mais ensuite, lui nous donne tout le nécessaire pour avoir la paix avec les autres. Et en ayant donc une connaissance plus profonde de Dieu, eh bien, cette paix va se multiplier. Dans sa seconde épître, Pierre, il dit ceci, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ah oui, ça, on veut bien. Mais il nous dit aussi comment elle va être multipliée. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. On en revient encore une fois à la source. Si on veut que cette paix se multiplie dans notre vie, ben ça va passer par davantage d'efforts de notre part de connaître Dieu et de connaître sa volonté. Et lorsque nous comprenons mieux toutes ces choses, lorsque nous comprenons mieux la profondeur et la richesse de l'amour envers nous, notre intelligence, notre esprit, eh bien, commence à s'appuyer sur la puissance de Dieu et sa sagesse, non plus sur nous-mêmes, mais sur celle de Dieu. Comme l'enfant qui s'accroche à son papa, il sait que ouais, papa, il va tout régler. Pour le chrétien, c'est la même chose. Dieu a déjà tout réglé pour moi, et même les difficultés qu'il y a ici, je lui fais confiance. Et voilà comment vous pouvez voir des chrétiens qui vivent dans la paix malgré les difficultés. Pour conclure, je dirais ceci, c'est que même en vous inspirant de la Bible pour des principes, pour avoir une meilleure vie, vous n'y parviendrez pas. Parce que vous êtes focalisé sur cette vie ici-bas, sans avoir réglé le conflit avec Dieu. Si en ce jour vous recherchez la paix dans votre vie sans avoir réglé votre situation avec Dieu, vous n'êtes pas réconcilié avec lui. Votre recherche de paix dans votre vie, elle sera vaine. Elle sera qu'une poursuite du vent. Une expression que le sage Salomon emploie souvent dans le livre d'Ecclésiaste. Et même en parlant de ce livre d'Ecclésiaste, permettez-moi juste de conclure un peu avec ce passage d'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il nous est dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Un temps pour la paix. Pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme Sauveur, ce moment de paix, il vous est disponible. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il est encore temps pour avoir cette paix, de connaître cette paix. Et pour ce Noël, oui, je vous le souhaite joyeux. Joyeux parce que vous aurez compris la portée de la venue de Christ et que vous vous êtes réconciliés avec Dieu par Christ. Oui, Noël, on peut parler de paix et de joie. Et moi, ce que je trouve joyeux et paisible, beaucoup de ces cantiques de Noël que nous chantons, pas simplement la musique elle-même, la mélodie, mais les paroles elles-mêmes. L'autre soir, nous étions à un concert, parce que Abel fait partie de l'école de musique, et ils avaient un concert de Noël, et ils ont joué plein de choses différentes. Hein. Mais voilà, ils ont joué plusieurs des cantiques de Noël anglophones. Et j'étais en train de penser, je me dis, mais savent-ils ce qu'ils jouent? Connaissent-ils les paroles de ces cantiques? Connaissent-ils la profondeur de ces paroles? Non. Un peu comme Christ lorsqu'il regardait Jérusalem. Si seulement il connaissait, si seulement il savait, si seulement il savait la paix que j'ai pour eux. Et j'espère que ce matin, c'est le cas pour vous, que vous ayez cette paix avec Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le dès aujourd'hui, tant qu'il est temps. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. C'est la raison de Noël. C'est la raison pour laquelle nous sommes joyeux. C'est la raison pour laquelle même, où ça nous arrive même de chanter des cantiques de Noël en plein milieu du mois de juillet. Parce que nous connaissons cette paix. Même si on a des difficultés dans la vie, en regardant à Dieu, il nous accorde cette paix. Il y a quelques jours de cela, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbé. Et puis Damaris, on a discuté, et puis elle a prié. Et après cette prière, la paix. D'avoir laissé tous ses soucis tracas à Dieu. De savoir que c'est lui qui règne, de savoir que c'est lui qui gère. C'était parti. Et puis on n'en a plus parlé, on ne discute plus. Voilà ce que Dieu peut faire dans votre vie.